Chapitre 7. Le paysage sabin s'étendait devant eux sous une lumière idéale, comme un de ces paysages rêvés où les choses paraissent être visibles de loin par une irradiation qui en prolongerait les contours. La voiture fermée roulait avec un bruit égal au trot. Les murs des vieilles villas patriciennes défilaient devant les portières, blanchâtres comme vacillantes, avec un mouvement continu et doux. De temps à autre se présentait une grande grille de fer à travers laquelle on apercevait une allée flanquée de hauts buis ou un cloître de verdure habité par des statues antiques ou un long portique végétal sous lequel riaient çà et là des rayons de soleil pâle. Hélène se taisait, enveloppée dans son ample pelisse de loutre, le voile abaissé sur le visage, les mains gantées de chamois. André aspirait avec délice la subtile odeur d'héliotrope qu'exhalait la fourrure précieuse, tandis qu'il sentait contre son propre bras la forme du bras d'Hélène. Ils se croyaient tous les deux loin des hommes, seuls. Mais à l'improviste passait un carrosse noir de prélat, ou un bout de terre ou un cheval, ou une troupe d'ecclésiastiques violets, ou un troupeau de bœufs. À quelque distance du pont, elle dit « Descendons !» Dans la campagne, la lumière froide et claire ressemblait à une eau de source. Et comme les arbres ondulaient au vent, l'ondulation paraissait se communiquer du même coup à toute chose. Elle dit, en se serrant contre lui et en chancelant sur le sol raboteux, « Je pars ce soir. C'est la dernière fois. » Puis elle se tut. Puis, avec des pauses, elle reparla encore de la nécessité du départ, de la nécessité de la rupture, sur un ton plein de tristesse. Le vent furieux lui enlevait les paroles aux lèvres. Elle poursuivait. Il interrompit en lui prenant la main et en cherchant des doigts sous les boutons la chair du poignet. « Tais-toi ! Tais-toi !» Ils avançaient, luttant contre l'assaut des rafales. Et lui, près de cette femme, dans cette solitude profonde et solennelle, sentit brusquement entrer en son âme comme l'orgueil d'une vie plus libre, comme un flot surabondant de force. « Non, non, ne pars pas ! Je te veux encore, toujours !» Il lui mit le poignet à nu et glissa ses doigts sous la manche, lui tourmentant la peau d'une caresse inquiète et pleine de désir. Elle lui jeta un de ces regards qui l'enivraient comme des coupes de vin. Le pont, tout près d'eux maintenant, rougeoyait dans une illumination de soleil. Le fleuve semblait immobile et métallique en toute la longueur de sa sinuosité. Les joncs se courbaient sur la rive et les eaux secouaient légèrement des perches plantées dans la glaise pour soutenir des filets. Alors il essaya de la toucher par des souvenirs. Il lui parla des premiers jours, du bal au palais Farnèse, d'une partie de chasse à la campagne du divin amour, des rencontres matinales sur la place d'Espagne, devant les vitrines des orfèvres ou dans la tranquille et aristocratique rue Sixtine, lorsqu'elle sortait du palais Barberini, suivie par les bouquetières qui lui offraient des roses dans des corbeilles. « Tu te souviens ? Tu te souviens ?»« Oui. » « Et la soirée des fleurs, au début, quand je vins avec toutes ces fleurs, tu étais seule au coin de la fenêtre, tu lisais. Tu te souviens ?»«
Oui, oui. »
J'entrai, tu te retournas à peine, tu m'accueillis durement. Qu'avais-tu ? Je ne sais. Je déposai la botte de fleurs sur le guéridon et j'attendis. D'abord, tu parlas de choses insignifiantes, sans volonté et sans plaisir. Je pensais, découragée, « Elle ne m'aime donc plus ?» Mais le parfum était fort, il emplissait toute la chambre. Je te vois toujours quand tu saisis à deux mains le bouquet et que tu y plongeas toute ta figure en aspirant. Relevée, ta figure paraissait exsangue. Tes yeux paraissaient noyés dans une sorte d'ivresse.
« Continue, continue !» dit Hélène d'une voix faible, penchée sur le parapet, magnétisée par la fascination des eaux courantes.
Et puis, sur le divan, tu te souviens, je t'avais renversée et je te couvrais de fleurs la poitrine, les bras, la face. Tu te relevais à tout moment pour m'offrir ta bouche, ta gorge, tes paupières mi-closes.
Entre ta peau et mes lèvres, je sentais les feuilles de rose, froides et molles. Si je te baisais le cou, tu frissonnais par tout le corps et tu étendais les mains pour m'écarter. Oh, alors ! Tu avais la tête plongée dans les coussins, la poitrine cachée sous les roses, les bras nus jusqu'aux coudes. Et rien n'était plus amoureux et plus doux que le petit tremblement de tes mains pâles sur mes tempes. Tu te souviens ?
Oui, continue.
Il continuait avec une tendresse croissante. Grisé de ses propres paroles, il perdait presque la conscience de ce qu'il disait. Hélène, les épaules tournées à la lumière, se penchait peu à peu vers lui. À travers les vêtements, il sentait le contact indécis de leur corps. Sous eux, les eaux de la rivière glissaient, lentes et froides à voir. Les grands joncs grêles, pareils à des chevelures, se courbant à chaque souffle, y plongeaient avec de larges fluctuations. Ils cessèrent de parler, mais ils se regardaient et ils avaient dans les oreilles un bourdonnement continu qui se prolongeait à l'infini et qui semblait emporter une partie de leur être, comme si quelque chose de sonore se fût échappé de leur cerveau même et dilaté jusqu'à remplir toute la campagne. Hélène se redressa. « Partons, dit-elle, j'ai soif. Où pourrait-on avoir de l'eau ?» Ils se dirigèrent vers l'auberge, au-delà du pont. Des charretiers dételaient leurs chevaux avec des imprécations bruyantes. Le soleil couchant frappait d'un coup de lumière le groupe des bêtes et des hommes. À leur entrée, les gens de l'auberge n'eurent aucun mouvement de surprise. Trois ou quatre individus grelottant de fièvre étaient autour d'un brasero carré, taciturnes et jaunes. Un bouvier au poil roux somnolait dans un coin, tenant encore entre les dents sa pipe éteinte. Deux jeunes garçons, aves et louches, jouaient aux cartes et se guettaient pendant les pauses avec un regard d'une ardeur bestiale. L'hôtesse, une femme obèse, avait sur les bras un bambin qu'elle berçait lourdement. Tandis qu'Hélène buvait dans un verre grossier, la femme se lamenta en lui montrant le bambin.
« Regardez, madame ! Regardez, madame !»
Tous les membres de la pauvre créature étaient d'une maigreur pitoyable. Ses lèvres violacées étaient parsemées de points blanchâtres. L'intérieur de sa bouche était couvert de grumeaux laiteux. Il semblait que la vie eût déjà quitté ce petit corps, ne laissant qu'une matière sur laquelle végétaient les moisissures.
« Tâtez, madame, comme ses mains sont froides ! Il ne peut plus boire, il ne peut plus avaler, il ne peut plus dormir !»
La femme sanglotait, les fièvres regardaient, avec des yeux pleins d'une prostration infinie. Les sanglots de l'enfant donnèrent aux deux garçons un mouvement d'impatience. « Viens, viens !» dit André à Hélène en lui saisissant le bras après avoir jeté sur la table une pièce de monnaie. Et il entraîna dehors. Ils revinrent ensemble vers le pont. Maintenant, le cours de la Nio allait s'embrasant des feux du soir. Une ligne scintillante traversait l'arche. Et dans le lointain, les eaux prenaient une couleur russie, plus luisante, comme s'il y eût flotté des taches d'huile ou de bitume. La campagne accidentée, semblable à un océan de ruines, avait une teinte violette uniforme. Vers la ville, le ciel devenait plus rouge.
« Pauvre créature !»
murmura Hélène avec un accent de compassion profonde. Et elle se serra au bras d'André. Le vent faisait rage. Une troupe de corneilles passa dans l'air incendié, très haut, en croassant. Alors, tout d'un coup, à l'aspect de cette solitude, une sorte d'exaltation passionnelle s'empara de leurs deux âmes. Quelque chose de tragique et d'héroïque parut entrer dans leur amour. Les cimes de leur passion flamboyèrent sous les reflets du couchant tumultueux. Hélène s'arrêta.
« Je n'en puis plus !»
dit-elle haletante. La voiture était loin, immobile à la place où il l'avait quittée.
« Encore un peu, Hélène, encore un peu. Veux-tu que je te soutienne ?»
Emporté par un indomptable élan lyrique, il laissa libre cours à ses paroles. « Pourquoi voulait-elle partir ? Pourquoi voulait-elle rompre l'enchantement ? Désormais, leur destin n'était-il pas lié d'une manière indissoluble ? Il avait besoin d'elle pour vivre. Il avait besoin de ses yeux, de sa voix, de sa pensée. Il était tout imprégné de cet amour. Il avait tout le sang brûlé comme par un poison, sans remède. Pourquoi voulait-elle fuir? Il s'enlacerait à elle, il l'étoufferait d'abord sur son cœur. Non, cela ne pouvait pas être, jamais, jamais. Hélène l'écoutait, tête basse, luttant contre le vent, sans répondre. Au bout de quelques minutes, elle leva le bras pour faire signe au cocher d'avancer. Les chevaux piaffèrent.
« Vous nous arrêterez à la porte Pie, » dit-elle en montant dans la voiture avec André.
Et d'un mouvement subit, elle s'offrit au désir de son amant, qui lui baisa la bouche, le front, les cheveux, les yeux, la gorge, avidement, rapidement, sans plus respirer.
« Hélène ! Hélène !»
Une vive lueur pénétra dans la voiture, reflétée par les maisons couleur de briques. Sur la route s'approchait le trot sonore de plusieurs chevaux. Hélène, se pliant sur l'épaule de l'aimé avec une immense douceur de soumission, dit
« Adieu, mon amour, adieu, adieu !»
Comme elle se relevait, sur la droite et sur la gauche, passèrent au grand trot 10 ou 12 cavaliers en habit rouge qui revenaient de la chasse aux renards. Un d'eux, le duc de Beffy, en rasant la voiture, se pencha sur le pommeau de la selle pour regarder par la portière. André ne parla plus. Il sentait maintenant tout son être défaillir dans un accablement infini. Une fois la première révolte passée, l'enfantine faiblesse de sa nature lui inspirait un besoin de larmes. Il aurait voulu se plier, s'humilier, prier, émouvoir par ses pleurs la pitié de cette femme. Il avait la sensation confuse et obtuse d'un vertige. Un froid subtil le prenait à la nuque, lui pénétrait la racine des cheveux.
« Adieu !» répéta Hélène.
La voiture s'arrêtait sous l'arceau de la porte Pie. Il lui fallut descendre.